Bienvenue dans cet audio guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu à Nîmes. Nous sommes sur le point le plus à l'est de notre parcours. Nous allons nous y arrêter quelques instants devant cette fresque du 23 de la rue Nicot. Intitulée « La bagarre », ces détails nous invitent à prendre le temps de reconnaître toutes les références qui y sont présentes. Nous allons nous faire aider un peu par Cécile Coustès, référente culture à l'Office du tourisme.
Donc là, on a une très très grande fresque qui recouvre intégralement la façade de la maison qui accueille le Parti communiste, la Fédération du Gard. Et c'est une œuvre qui a été réalisée par deux artistes qui s'appellent Tito et Mulk, assez intéressante parce qu'ils font un lien entre l'histoire du Parti communiste, l'histoire de Nîmes, avec sur la façade, sur le côté, on peut lire « C'est la bagarre », donc qui fait référence à l'idée de lutte qui est chère au Parti communiste, hein, avec l'héritage de Karl Marx, la lutte des classes, etc. Une couleur rouge qui est la couleur historique du Parti communiste, hein, évidemment, qui est la couleur du sang aussi, donc en référence à la bagarre, ça aussi, ça a du sens. Mais la bagarre, c'est aussi le nom qu'on a donné à un événement historique qui s'est déroulé au XVIIIe siècle et qui est la dernière grande guerre de religion qui a marqué l'histoire de la ville entre catholiques et protestants. Et donc, du coup, c'était aussi une manière de faire un lien avec la ville de Nîmes. Et cette fresque, elle est très, très intéressante parce qu'on pourrait y passer la journée à regarder dans les moindres détails toutes les références. On a des références à Superman, par exemple. Mais au lieu d'être Superman, eh bien, à la place du S, on a la faucille et le marteau. On a aussi donc, un portrait de Che Guevara dans l'angle tout en haut, avec une petite bulle qui vraiment montre l'univers des artistes, vraiment inspiré par la BD. Donc, dans la petite bulle, on peut lire « Che la bagarre, Che où ?», qui est quand même une phrase qu'on prononce souvent à Nîmes, « Che où ?». Dans le même esprit, on a des références aussi à l'ambiance de la feria, avec le Ricard pour favor, hein. On a la référence à Rhin aussi, il y a énormément d'évocations du milieu de la BD, mais aussi des milieux d'extrême gauche, et donc cette façade, elle est très très intéressante parce qu'il y a plein de petits détails, et elle est tout en contraste, tous les dessins sont faits en noir et blanc, alors que la façade, elle est vraiment rouge, rouge sang.
Le sang, il en est question très régulièrement dans l'histoire de Nîmes. Cette fameuse bagarre de Nîmes en 1790 opposa les royalistes et les républicains en pleine période révolutionnaire. Les trois jours consécutifs d'affrontements aboutissent à des dizaines de morts. Plus loin encore, c'est la religion qui est à l'origine de la Michelade en 1597. Ce massacre de protestants sur des catholiques doit son nom à la Saint-Michel du 29 septembre, jour où il a été perpétré moins de 5 ans avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Bref, dans l'histoire de Nîmes, les combats de rue sont fréquents et sanglants. Pour parler de la baston, nous avons fait appel à Daniel Jean, non pas spécialiste des sports de combat, mais historienne spécialiste de Nîmes, autrice de nombreux ouvrages aux éditions Alcide.
Vous savez qu'à Nîmes, on va dire que l'histoire politique, la vie politique nîmoise jusqu'au début du XXe siècle, on ne peut pas la dissocier de la religion. On a toujours eu, depuis la réforme, ce vieil antagonisme entre protestants et catholiques. Vous savez comment ça s'est terminé avec la Michelade, hein ? Et ça va perdurer pendant donc tout le 19e siècle et encore au début du 20e siècle. Moi, je vous dirais même jusqu'aux années 50, 60. Maintenant, les choses se sont apaisées. Si bien que chaque fois qu'il y avait une manifestation sociale, elle était souvent liée à des différences religieuses. Par exemple, ici vivaient, je vous l'ai dit, des ouvriers royalistes et catholiques. À la placette, on avait des ouvriers protestants et républicains. Et il n'était pas rare qu'il y ait sur le boulevard Gambetta ce qu'on appelait des bastons. C'est-à-dire que les jeunes, surtout entre eux, se taper dessus. Parfois, c'était juste des coups. Parfois, ça allait plus loin.
Mais en effet, cette époque est bien révolue. Pour reprendre le chemin de nos fresques et s'éloigner de la baston, prenons la rue des bons enfants. Reprenez la rue Nico vers la gauche si vous êtes face à cette bagarre et dirigez-vous jusqu'à l'arche de Noé. Face à vous est peinte en hauteur. Juste après, prenez à droite et avancez-vous jusqu'au parking sur la droite. Nous y retrouvons Cécile Coustès.
Là, on est dans le quartier Richelieu face à une œuvre qui est en fait une œuvre réalisée par deux artistes qui s'appellent Tank et Popek, qui ont signé qui est restée pendant très longtemps une des plus grandes fresques réalisées dans le cadre des Expos de Ouf. Et elle est assez intéressante puisqu'on utilise une autre technique pour sa réalisation, c'est l'utilisation d'un rétroprojecteur. En fait, c'est pas évident de peindre face à un mur, surtout avec des dimensions. Là, on est sur plusieurs mètres de haut. Je pense qu'on doit être à 4 mètres de haut et on a presque une dizaines de mètres de longueur. Donc quand on est vraiment face au mur, pour avoir le recul nécessaire, c'est pas toujours facile d'avoir les bonnes proportions, la bonne perspective. Donc il y a des artistes qui vont travailler avec des vidéoprojecteurs, comme ça le dessin réalisé en petit format va être projeté en plus grand, et donc ensuite on va faire les contours et on va finaliser à la bombe, à la peinture, enfin selon la technique de l'artiste. Et donc c'est cette technique qui a été utilisée ici et qui a aussi permis de créer du lien avec les habitants du quartier qui ont dû prêter des rallonges pour brancher le matériel. Et du coup, ça a créé des occasions de rencontre avec les habitants du quartier, parce qu'il ne faut pas oublier que les quartiers Richelieu et Gambetta, ce ne sont pas des quartiers où il y a des restaurants, des magasins, c'est principalement des logements. Et donc si vous n'avez rien à faire dans le quartier Richelieu et Gambetta, ce n'est pas forcément un endroit où vous allez si vous n'y vivez pas. Et donc le fait d'avoir des fresques, ça attire des publics extérieurs et ça crée aussi et ça encourage la mixité sociale, les rencontres toujours très intéressantes et très riches. Et ça, c'est permis grâce au Festival de l'Expo de Ouf.
Continuons donc notre expérience sociale en suivant la rue des Bons Enfants. Tout au bout, après les deux portraits, devant le numéro 3 de la rue, nous allons retrouver Cécile Coustès. Nous y resterons quelques instants pour y découvrir différents aspects de la culture graffiti.
Ici, on a une œuvre d'un artiste montpelliérain qui se fait appeler Noubian. Donc, les artistes utilisent souvent des pseudonymes, hein, puisque comme c'est historiquement quelque chose de vandale, mais on connaît maintenant de plus en plus leur véritable nom et de plus en plus utilisent leur vrai nom. Donc là, il est originaire de Montpellier et il réalise une grande baleine qui ressemble un peu à un sous-marin. On est un peu dans l'univers de Jules Verne avec des rivets, des portes, etc. Et en fait, l'univers de cet artiste, c'est ce qu'on appelle le steampunk fantasy. En fait, c'est un mouvement littéraire, artistique, qui imagine ce qu'aurait pu être notre quotidien et notre futur si on avait perduré dans l'utilisation des machines à vapeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette espèce de grande baleine avec un jet qui est à la fois un jet de vapeur, mais aussi le jet naturel de la baleine. On mixe un petit peu les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste a posé sa baleine à un endroit particulier du mur où il y avait déjà des traces de peinture, comme si elle flottait à la surface. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis la préhistoire. Ça s'appelle de l'opportunisme. L'artiste, en fait, va utiliser ce qui existe déjà pour donner une autre dimension à sa réalisation. Les hommes préhistoriques faisaient ça en choisissant par exemple des morceaux de roche qui étaient un peu en relief pour créer une dimension particulière.
Et quoi de mieux alors que l'opportunisme pour le graffiti pour se développer ? Un développement qui a évolué aussi socialement. A priori populaire dans son origine, le graffiti fait aujourd'hui d'autres émules. Il vous suffit de vous retourner pour découvrir un tout autre style et une tout autre technique.
Donc sous l'œuvre de Aya, qui est une femme, puisqu'il ne faut pas penser que le street art est réservé aux hommes, il y a aussi pas mal de femmes qui sont street artistes. Donc Aya, c'est une artiste intéressante parce qu'elle a fait l'école des beaux-arts, donc elle a vraiment un parcours plutôt classique. Et donc là, elle fait une œuvre au pinceau. On voit d'ailleurs les couleurs sont beaucoup plus fades qu'avec de la peinture. Ça a passé, ça date de 2017. Et en dessous, on a des tags qui sont venus compléter cette œuvre. Et dans le milieu du street art, on appelle ces tags qui sont du coup des actes de vandalisme sur l'œuvre, des toys, et qui viennent recouvrir les œuvres. Et on voit même que ces toys ont été retoyés eux-mêmes par d'autres toys, puisqu'on a des tags blancs sur des tags verts, etc. Et dans le milieu originel du street art, c'était en fait les toys un moyen de dire à l'artiste qu'il n'était pas à sa place, qu'il ne fallait pas qu'il prenne soit ce spot-là, cet endroit-là, ou que sa réalisation n'était pas assez bonne. Et donc ça crée des petites guerres d'égo entre artistes. Et historiquement parlant, ces guerres d'égo, elles remontent aux guerres des gangs qu'on avait aux États-Unis, qui justement marquaient leur territoire avec leur blaze, donc leur nom de gang au croisement des rues qu'ils contrôlaient. Et donc quand un nouveau gang prenait le contrôle sur tous les trafics, eh bien, il l'effaçait, il toyait le blaze des autres. Et c'est aussi ce qui a contribué à donner une image assez négative du street art, parce que c'était associé justement à tous ces trafics aux États-Unis et au vandalisme.
On va continuer à creuser cette évolution du graffiti avec Cécile Coustès en nous rendant devant l'église Sainte-Bodile. Finissez de descendre la rue des Bons Enfants pour prendre à gauche, puis la première à droite. Au bout de cette rue Pierre-Semar, vous ne pouvez plus manquer l'imposant édifice religieux. Toujours en compagnie de Cécile Coustès donc, les liens entre romanité et graffiti se dévoilent.
Et quand on est sur cette place, qu'on regarde les bâtiments qui se trouvent tout autour, on aperçoit de l'art vandale encore, avec deux formes un peu particulières d'expression de street art. On a des tags et des graffitis. Donc tag, c'est un vocabulaire aussi propre à ce mouvement artistique. Tag, c'est le coup de crayon, voilà, ce qui est fait à main levée en une seule fois. Donc soit avec un feutre, soit avec une bombe, soit avec un pinceau aussi quelquefois. Et puis dès que c'est travaillé un petit peu plus, qu'on va avoir un trait un peu plus épais, un lettrage, un dessin, on va parler de manière plus générique de graffiti. Et ce terme-là, il est intéressant parce qu'il vient de l'Antiquité. Ça vient de graffito, qui était le stylet qui permettait de gratter la cire sur les tablettes, qui permettait aux écoliers notamment de marquer leur cours. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a ce lien avec l'Antique aussi dans le terme des fresques, qui désigne les grandes réalisations des street artistes aujourd'hui. Au départ, une fresque à l'époque romaine, c'est une technique de peinture particulière qui consiste à apposer sur un mur un mortier frais, composé de chaux, de poudre de marbre, qui est apposé en plusieurs couches, sur lesquelles, tant que c'est encore humide, on dépose des couleurs, et comme ça, en séchant, on absorbe les couleurs. C'est pour ça qu'on parle de fresque, parce que c'est fait à fresca, à frais. Dans les quartiers Richelieu-Gambetta, les fresques réalisées par les street artistes ne sont pas faites avec cette technique-là, mais on retrouve en fait ce terme de vocabulaire par rapport à la taille, à la dimension des réalisations, qui sont de grande ampleur, puisque certaines recouvrent carrément des maisons entières.
Et une maison entièrement recouverte, on va justement en voir une. C'est celle du 8 rue Encloré, où est situé le spot, lieu incontournable de notre déambulation. On s'y donne rendez-vous en remontant le boulevard Gambetta pour le traverser dès que possible. La rue Encloré est la première qui remonte depuis le boulevard. À très vite pour plein de nouvelles rencontres. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset pour Rage, avec le soutien de la Direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les Journées européennes du patrimoine 2023, le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un toit pour tous. Rage remercie également le spot, tiers-lieu incontournable sur Nîmes, instigateur de l'expo de ouf, ainsi qu'Adeline pour la conception et la réalisation des QR codes.